France Inter, Ali Badou, le 7-9.
Après-demain jeudi, le président de la République présentera ses conclusions au grand débat national. Notre invité ce matin avec Alexandra Ben Saïd, c'est lui que nous voulions entendre avant cette conférence de presse à l'Élysée. Il est démographe, l'un de ceux qui connaissent le mieux la société française, et il va nous expliquer ce paradoxe national, se sentir mal dans un pays qui va bien. C'est le titre du livre qu'il publie aux éditions de l'Aube. Bonjour Hervé Lebras.
Bonjour.
Et bienvenue, vous dialoguerez dans une dizaine de minutes avec les auditeurs de France Inter. Est-ce que vous avez envoyé votre livre au président de la République ?
Oui, bien sûr, puisque le problème le touche directement.
On ne sait pas ce qu'il en a pensé, pas encore ?
Non, vous le connaissez, il s'exprimera pas là-dessus, mais peut-être que un jour il m'enverra un mot. Je le connais un petit peu parce que j'ai fait partie de la commission Attali dont il était le rapporteur général. C'était un garçon très courtois et très obéissant à Jacques Attali d'ailleurs.
Et en l'occurrence, c'était le grand leader que vous avez rencontré à l'Élysée il y a quelques semaines au moment du grand débat national avec les intellectuels. Vous en étiez, et on se souvient, pour ceux qui ont veillé assez tard, d'une interpellation très forte que vous avez adressée au président de la République. Se sentir mal dans une France qui va bien, c'est un livre qui regarde à la loupe notre société, ce qu'en disent les statistiques, les comparaisons avec nos voisins européens. Et ce que vous décrivez, c'est une contradiction que j'aimerais que vous nous expliquiez. Contradiction entre l'état objectif du pays, qui est plutôt bon, et ce sentiment dominant chez les Français, qui est largement négatif. Pourquoi ?
Oui, c'est très difficile. D'abord, il faut justement dresser un état des lieux. Et je commence par montrer ce sentiment extrêmement négatif sur la plupart des sujets. Les Français sont parmi les Européens la population la plus pessimiste au fond.
Il y a une question qui permet de mesurer justement ce malheur français. Avez-vous confiance en l'avenir ? C'est une question qu'on pose dans tous les pays européens, et en l'occurrence, 6 Français répondent oui. 6 Français sur 10 répondent oui, ils ont confiance. C'est inférieur, très largement inférieur à la moyenne européenne.
Oui, tout à fait, mais sur la plupart des questions, et même de façon paradoxale, avez-vous confiance dans votre système social, dans votre système de prestations sociales, de sécurité sociale ? Les Français sont les derniers en Europe, alors qu'ils ont sans doute le meilleur système de sécurité sociale. Donc là, c'est au fond la première partie du paradoxe, elle est là, c'est l'état d'esprit extrêmement négatif des Français. Et en regard, quand on prend alors secteur par secteur, la pauvreté, les différences de revenus, les questions de durée du travail, les questions de retraite.
On va rentrer dans le détail.
La France va bien.
Oui, la France est l'un des pays les plus égalitaires d'Europe, l'un de ceux qui procèdent à la plus large redistribution sociale. Au fond, est-ce que c'est comme dans Astérix quand on dit « ils sont fous ces Gaulois » ? Est-ce que vous, Hervé Lebras, vous dites « ils sont fous ces Français » ?
Ah, j'irai pas jusqu'à dire ils sont fous, mais ils sont victimes d'une maladie, assez répandue, qui consiste à prendre des cas particuliers pour la situation générale. C'est-à-dire, ils ne sont plus capables, au fond, de comprendre qu'à 65 millions d'habitants, il faut faire attention non pas à ce qui se passe juste autour de vous, mais à ce que fait l'ensemble de la population. Donc, malheureusement pour eux, aux chiffres.
Mais quand même, Hervé Lebras, on est à 24 semaines de mobilisation, on a des gilets jaunes sur les ronds-points qui nous parlent d'inégalité, de pauvreté, de sentiment de déclassement. Il y a une réalité derrière tout ça, ça n'est pas que des cas particuliers qu'on trouve sur les ronds-points. Il y a une adhésion très forte de la population française.
Alors là, il faut entrer dans le détail. D'abord, oui, ils sont chaque semaine, mais enfin, il y a 30 000 personnes chaque semaine. La moindre manifestation d'enseignants ou sur le climat, c'est en France 80, 100 000, 150 000 personnes. Donc, ils sont quand même très peu nombreux. Pour vous donner un chiffre, actuellement, les manifestations, 30 000 personnes, c'est dans une ville de 5 000 habitants, c'est comme s'il y avait 2 personnes qui manifestaient. C'est donc presque rien. Alors, le soutien, il faut regarder de près. Le soutien, dans les enquêtes, on a soutiennent et ont de la sympathie.
C'est pas la même chose.
Pas du tout. Ont de la sympathie, c'est au fond une façon de dire qu'ils ont de l'antipathie pour le gouvernement actuel. Donc c'est une façon d'exprimer mécontentement. Mais quand on regarde les enquêtes sous un autre angle, par exemple, les enquêtes sur est-ce que vous soutenez la police, la dernière enquête donne 75% de soutien à la police. Ça, les gilets jaunes n'en font jamais mention. Mmh. Donc il faut beaucoup se méfier. Parce que là, on est en train d'entrer dans un gouvernement par les sondages en disant qu'ils sont soutenus.
Mais vous vous rendez compte que ce que vous écrivez est inaudible pour de nombreux Français, Hervé Lebrun ?
C'est inaudible, mais ce que j'ai cherché à faire, et au fond, je vous ai donné la thèse, l'antithèse, il faut donner la synthèse,
oui,
et j'ai cherché
parce que c'est
surtout à comprendre, c'est-à-dire pourquoi on est dans cette situation qui surtout est très différente de
parce
la situation des autres pays.
Parce qu'on est dans un moment politique, Hervé Lebrun, et en l'occurrence, d'écrire ne suffit pas. Quelle conclusion politique peut tirer le président de la République en lisant votre livre ? Il va se dire, mais circuler, il n'y a rien à voir.
Non, parce que il y a quand même à voir que le président de la République, il est élu par des personnes qui, justement, sont les mêmes, qui ont une très mauvaise opinion de l'avenir et une très mauvaise opinion des politiques. Parce que ça aussi, on est le pays où l'opinion au sujet des politiques est la plus mauvaise en Europe.
Donc envers c'est les médias, très les politiques, les institutions, les entreprises, la mondialisation.
Mais ce que je cherche à montrer, c'est... pourquoi il y a cet écart ? Et bien sûr, j'ai pas la solution, mais là, on tombe sur des phénomènes qui ne marchent pas très bien en France. On tombe d'abord sur une très forte difficulté de l'ascension sociale, ce qu'on a appelé la peur et le blocage de l'ascenseur social. Et donc là, je montre des éléments qui vont tout à fait dans ce sens-là et qui montrent que c'est relativement récent. C'est au cours, disons, des 15 ou 20 dernières années que cela s'est produit. Et puis, il y a un autre phénomène qui est assez bizarre, mais qui a déjà été, décrit par Tocqueville dans l'Ancien Régime et la Révolution, c'est que la France a beaucoup amélioré toutes ses performances jusqu'à il y a une dizaine d'années. Et puis, depuis 10 ans, on est à peu près stationnaire. Et donc, les anticipations, les espoirs des personnes, qui étaient très grands du fait de ce progrès, ils sont comme arrêtés, gelés sur place. Et donc, il y a une manifestation justement d'inquiétude parce qu'on ne peut plus atteindre ce qu'on comptait atteindre il y a une dizaine d'années.
Vous êtes démographe, Hervé Lebrun, inquiétude, pessimisme, mais comment comprendre que la France soit le pays d'Europe qui a la fécondité la plus élevée ? Faut être optimiste pour faire l'amour et faire des bébés ?
Alors là, il faut être très très méfiant. Je crois que ça a été souvent un leitmotiv français parce que la France a eu pendant très longtemps la plus faible fécondité d'Europe. Alors maintenant, c'est l'inverse. Donc on dit c'est formidable, c'est de l'optimisme. Oui, mais c'est un optimisme privé. D'une certaine manière, au fond, les Français vivent dans le malheur public et le bonheur privé. Et donc, ils se retranchent, j'emploie le mot qu'on employait il y a quelques années aux États-Unis, ils font du cocooning. C'est-à-dire, puisque ça ne marche pas sur l'extérieur, ou du moins qu'ils pensent que ça ne marche pas à l'extérieur, eh bien, on va se construire son petit nid, on va se construire sa famille, on va s'entourer des siens. Et je fais remarquer que...
Ça ne veut pas dire que les Français font plus l'amour que leurs voisins européens ?
Non, vous savez, si on faisait vraiment, si c'était proportionnel au nombre de fois où on fait l'amour, à ce moment-là, on aurait beaucoup plus d'enfants qu'on en a actuellement.
Alexandra, c'est 94%, c'est un chiffre qui nous a sidéré aussi. 94% des Français s'estiment heureux de vivre dans leur pays. Ça aussi, c'est assez paradoxal, parce que d'un côté, il y a un pessimisme, il y a une critique, un regard noir qui est porté sur la société française, et malgré tout, quasiment plus de 9 Français sur 10 sont heureux de vivre dans l'Hexagone.
Oui, parce que justement, ils sont heureux dans leur bonheur privé. Et donc, l'idée de quitter l'Hexagone, c'est l'idée de quitter ce bonheur privé. C'est pas simple. Donc, ils sont effectivement, parmi les populations européennes, parmi les pays européens, ceux qui sont le plus contents de vivre dans leur pays.
Donc Hervé Lebras, finalement, vous nous décrivez une France qui va bien dans le présent, dites-vous, mais qui se soucie beaucoup de l'avenir, et vous dites qu'il va falloir rétablir une certaine circulation, un ascenseur social. Qu'est-ce que c'est ? On a les mesures jeudi du président, qu'est-ce que c'est ? C'est par exemple l'éducation nationale ? Par quoi ça passe ?
Oui, l'éducation nationale est tout à fait importante, puisque là, j'ai pas abordé, ou du moins seulement filigrane, le sujet dans le livre, mais comme vous le savez, on est le pays dans les enquêtes PISA où les différences scolaires sont les plus fortes, où selon le milieu social, la réussite des enfants est la plus tranchée. Donc là, on est au début de ce qui justement bloque l'ascenseur social. Autrement dit, il faut des mesures fortes, mais c'est des mesures qui mettront du temps à se mettre en place et encore plus de temps à avoir de l'effet. Et les politiques, eux, veulent des mesures qui ont un effet qui soit très rapide. Ceci dit,
autrement dit, le président de la République ne peut que décevoir.
Il risque de décevoir, mais il a quand même, au fond, amorcé cette solution en étant très clair sur les questions de l'enseignement primaire et de la maternelle, où là, il y a eu un véritable progrès qui a été fait. Donc là, il peut continuer sur cette voie. Au moins, bien sûr, il sera obligé de donner des satisfactions immédiates. Ça, c'est la politique. Mais j'espère que, justement, il donnera des mesures de long terme qui répondent à ce blocage social.
Qui répondent aussi à des questions de pouvoir d'achat. Si on reprend cette crise sociale inédite qui a démarré il y a maintenant plus de 5 mois, elle est née d'une question qui portait sur le pouvoir d'achat. Comment agir là-dessus ?
Alors, sur le pouvoir d'achat, je ne trouve pas. Elle est née d'une... j'ai exposé cela dans un article de la revue Études. Quand on suit clairement cette affaire, on s'aperçoit qu'elle est née d'un mépris pour ce qui concerne l'automobile, la voiture, par les classes dirigeantes qui n'ont pas compris à quel point la voiture est importante pour la vie d'un très grand nombre de Français.
Et vous décrivez la rupture de ce pacte implicite avec les automobilistes et l'État.
Absolument. Et c'est alors ensuite, une fois, c'était très clair au tout début, quand il y avait 280 000 personnes, c'était très clair parce que elles venaient ou bien du périurbain ou bien des zones au fond les plus désertifiées de France. Mais ensuite, comme il n'y a pas eu de réponse, parce que ça n'a pas été compris, c'est la question de la voiture n'entre pas dans les grands paradigmes sociologiques du moment. Ça n'a pas été compris. Du coup, se sont agrégées énormément d'autres demandes qui d'ailleurs rendent le mouvement difficilement compréhensible. Et dont a émergé, parmi ces nombreuses demandes, cette question du pouvoir d'achat.
Mais elle a un fond, cette question du pouvoir d'achat, quand même. Il y a une stagnation pendant les 10 ans de crise. Il y a ça, et puis il y a le calendrier de suppression de l'ISF, alors que de l'autre côté, on a la baisse des APL. Enfin, les gilets jaunes et ceux qui y ont de la sympathie ont quand même quelques raisons d'être agacés.
Non, parce qu'il y a... Je dirais non, parce que...
Allez-y.
Non, parce que la stagnation, elle est pour tout le monde. Alors, quand on regarde catégorie par catégorie, il y a des nuances, mais le fait qu'elle soit pour tout le monde, on le voit très bien aux indices d'inégalité ou bien aux indices de pauvreté qui ont à peine progressé, même finalement pas du tout, au cours des toutes dernières années, qui ont un peu progressé après la crise de 2008, mais qui sont maintenant toujours, au fond, à un niveau qui est l'un des meilleurs en Europe. On a très peu de pays où la pauvreté soit plus grande ou bien où les inégalités soient plus grandes. Donc là-dedans, bien sûr que quand il n'y a pas de croissance, ça pose un problème, et ça pose un problème à tout le monde. Ça ne pose pas un problème à telle ou telle catégorie. Et ça a posé un problème à ceux qui avaient justement des anticipations, qui avaient, en fonction d'au fond, il y avait une progression assez rapide jusque dans les années 2005-2008. Et donc, comme cette progression s'est arrêtée, les gens qui avaient des projets voient leurs projets arrêtés, mais quel que soit leur milieu social. D'ailleurs, le milieu social de beaucoup de gilets jaunes est plutôt un milieu moyen, pas du tout un milieu de pauvres.
Je vous disais que votre livre était passionnant, mais qu'il allait faire débat et que cette thèse était difficilement audible. Vous allez vous en rendre compte avec nos auditeurs. Bonjour Denis et bienvenue sur France Inter.
Oui, allô.
Bonjour Denis.
Allô.
Bonjour, on vous entend. On vous entend, Denis, vous avez participé à 10 débats nationaux. Votre question à Hervé Lebras.
Oui, j'aimerais dire à monsieur Lebras que nous vivons vraiment pas dans la même France. Je suis bénévole au sein du resto du cœur et j'aimerais inviter monsieur Lebras à participer une semaine. Là, il aurait un échantillon de la France qui souffre. Ça va de personnes âgées jusqu'à des jeunes femmes avec enfants et qui vivent vraiment avec avec une misère. Monsieur Lebras égrène des statistiques, des pourcentages, des chiffres. Il fait partie de ces personnes qui sont complètement hors sol et qui se laisse aller à des courbes, des statistiques. Moi, j'aimerais dire que le néolibéralisme de nos gouvernants, qui en sont de fervents adeptes, n'est donc pas seulement inégalitaire, il déchire ce qu'il fait aussi, la trame de nos vies en commun. Et M. Lebras serait bien inspiré de venir un jour, une semaine, servir...
Il va vous répondre, Denis, justement. Hervé Lebras.
Vous savez, c'est l'histoire de ce touriste français qui va en Angleterre, il arrive à Douvres, et puis la première Anglaise qu'il aperçoit est rousse, et il se précipite au téléphone, et il dit à sa femme, « Chérie, c'est vrai, toutes les Anglaises sont rousses. » C'est ça le problème, c'est-à-dire que bien sûr, il y a de la misère en France, et on en voit autour de soi, mais la question c'est comment peut-on juger de la situation de 65 millions de Français ? Personne n'est capable de le faire en fonction de son entourage. Donc le travail que je fais, que font les statisticiens, est extrêmement important.
Ce que dit monsieur... Pour déclarer par exemple que la pauvreté a considérablement reculé en France depuis un demi-siècle.
Absolument.
Même si
je vais vous donner par exemple des chiffres, puisque monsieur n'aime pas les chiffres, je vais en donner peu, mais en 1970, il y avait 2 600 000 personnes qui étaient au minimum vieillesse. Il y en a actuellement 580 000. Bien sûr, c'est trop, mais c'est 5 fois moins et il y a 2 fois plus de personnes âgées. Donc voilà le type de, au fond, de progrès qu'a connu la France. Et on est obligé à ce moment-là, pour le voir, de recourir aux chiffres. Sinon, on est victime de ce qu'on a autour de soi. Je ne nie absolument pas qu'il y ait de la misère, des îlots de misère, mais mon travail consiste à dire, est-ce que pour rapport aux 65 millions de Français, elle est importante, et est-ce que par rapport aux autres pays qui nous ressemblent, elle est importante? Et ma réponse, nous sommes mieux situés que la plupart des pays autour de nous.
Bonjour Serge, bienvenue sur France Inter.
Oui, bonjour. Moi, statistique, ouais, ça me dérange pas. Et puis le sentiment qu'a souligné Monsieur Lebras sur la question de l'individualisme français, qui est quand même un mal, enfin on peut appeler ça même un mal français, le typiquement français, l'individualisme. On questionne quelqu'un, il va immédiatement vous donner son cas personnel comme un exemple. Moi, mon sujet, c'est est-ce que Monsieur Lebras a conscience quand même qu'il y a une fonte non seulement des glaciers, hélas, mais aussi des services publics, des services au public, des facilités qui étaient offertes par les services publics à un certain nombre de gens pour se déplacer. Vous parliez de l'importance de la voiture tout à l'heure, mais croyez-moi, s'il y avait encore autant de petits trains qui relient les petites villes les unes entre les autres, il y aurait beaucoup moins de voitures et donc beaucoup moins de problèmes avec les voitures. Par exemple, alors est-ce que dans son livre, M. Lebras a pris en compte ce genre de situation et ce genre de problématique ?
Je peux répondre à sa place et vous dire oui, puisque j'ai lu le livre, mais Hervé Lebras allait plus loin, justement.
Oui, non, tout à fait, vous avez tout à fait raison. Et au fond, mon livre, c'est peut-être justement de dire, méfions-nous, ne perdons pas ce que nous avons, parce que nous sommes en train de le perdre. Et effectivement, vous avez tout à fait raison sur ce qu'on appelle la justice spatiale, c'est-à-dire faire en sorte que les personnes qui vivent loin des grandes villes ou qui vivent dans le périurbain aient des conditions de vie qui ne soient pas altérées par la disparition des services publics. De ce point de vue-là, au tout début, la demande des Gilets jaunes était très claire, elle a été progressivement noyée dans d'autres demandes, parce que c'est une demande qui est contradictoire avec la baisse des impôts, avec aussi d'une certaine manière l'augmentation du pouvoir d'achat. Ça coûte cher d'entretenir des petites structures en dehors des grandes villes, des maternités, etc. Mais c'est une demande qui est très très forte de la part d'une partie de la population.
Et cependant, Hervé Lebras, vous ne pensez pas, c'est ce que vous dites dans le livre, que les campagnes sont particulièrement oubliées. Quand vous parlez de justice spatiale, ça n'est pas de cela, ça n'est pas à cela qu'il faut s'attaquer. Les campagnes oubliées, non.
Alors, les campagnes, si vous voulez, ont un problème avec les questions de mobilité. Donc, les questions, c'est là que la question de la voiture se pose. Mais on en a déduit que tout ce qui était ce qu'on a appelé la périphérie, qui est un mot vague, allait mal. Non, quand on regarde de près, on a des surprises. D'abord, par exemple, le taux de chômage n'est pas plus fort, n'augmente pas avec la distance aux grandes métropoles. Il est d'ailleurs plutôt plus fort dans les très grandes agglomérations, ou du moins au centre des grandes agglomérations. Pauvreté, même chose, proportion de familles monoparentale, même chose. Et il y a une chose qui est beaucoup plus bizarre, et j'y m'ai surpris à de nombreuses fois pour refaire le calcul commune par commune, quand on regarde là où le revenu a le plus augmenté au cours des 20 dernières années, ce n'est pas dans les grandes cités, au contraire, c'est là qu'il a le moins augmenté, dans les grandes métropoles, il a le plus augmenté dans ce qu'on appelle les communes qui sont hors pôle, c'est-à-dire les communes qui sont au fond le plus loin de
tout. Et ça c'est vraiment paradoxal, et c'est contre l'idée dominante justement sur la France périphérique qui souffrirait par rapport justement aux grandes métropoles.
En même temps, j'avais cité Tocqueville tout à l'heure, c'est en accord avec l'idée de Tocqueville, c'est justement dans ces endroits où au fond le progrès a été le plus fort que le ralentissement de ce progrès ou même la stabilité actuelle est le plus mal ressenti parce que les espoirs qu'on nourrissait sont arrêtés.
Nous sommes en ligne avec Chantal, bonjour Chantal.
Oui, bonjour.
Et bienvenue, votre question à Hervé Lebras.
Oui, écoutez, j'ai pas vraiment de question, simplement je suis un petit peu étonnée de cette question qu'il se pose pour, et que vous vous posez à France Inter. Pourquoi sommes-nous si désespérés, entre guillemets? Pour ma part, oui, je suis inquiète. Je vis dans un pays quand même où la devise c'est liberté, égalité, fraternité. Nous avons aussi acquis des acquis sociaux au prix de longues luttes, tout le monde les connaît. La sécurité sociale, par exemple, qui est un bijou, le service public du transport, de l'énergie. Je vais pas m'étendre parce qu'en plus, je suis un petit peu émue d'être au téléphone. Alors oui, je suis inquiète. Je suis européenne. Je veux sauver la planète, mais je veux aussi qu'on arrête de nous prendre pour des imbéciles en nous disant qu'il faut travailler plus, gagner moins, culpabiliser sous prétexte que soi-disant on va vivre plus vieux. Parce que je pense que si ça continue comme ça, on vivra pas plus vieux, mais plutôt on mourra plus jeune.
Hervé voilà. Lebras.
Oui, ça, merci pour votre vous question, touchez un point sur cette question de vivre plus vieux. Vous savez que on le pensait.
Mais répondez d'abord sur
longtemps.
La défense des acquis sociaux, parce que malgré tout, ça touche un point sensible de votre étude. Les Français s'enferment dans le passé, dites-vous. Bon, on peut aussi voir ça comme une défense d'acquis sociaux qui ont été chèrement, durement conquis.
Oui, là vous avez raison. Mais en même temps, justement, si c'était vraiment cette
défense...
Vous
parlez comme le président de la République.
Si c'était vraiment cette défense, à ce moment-là, les Français seraient contents dans les enquêtes de leur sécurité sociale. Or, ce n'est même pas le cas. C'est là qu'on sent la force du pessimisme. Mais sinon, vous avez raison. Et sinon, mon livre, justement, tente de rappeler que nos services sociaux, nos prestations sociales sont remarquables, que on entend toujours le refrain ça coûte cher les prestations sociales, on est le pays qui a la plus forte dépense, ça nuit à notre productivité. Oui, d'une certaine manière, mais en même temps, ça ne nuit pas à la population, ça permet à la population d'avoir, par exemple pour les femmes, la plus forte espérance de vie en Europe. Alors, est-ce que ça durera? Madame a raison d'être inquiète, puisque au cours des 4 dernières années, vous savez qu'il y a un très net ralentissement, pratiquement même un arrêt de la croissance de l'espérance de vie. Aux États-Unis, elle commence à diminuer. Dans plusieurs pays d'Europe, c'est la même chose. Donc, l'histoire de vivre de plus en plus vieux a peut-être fait long feu.
Et il y a quelque chose aussi de frappant parmi toutes les thématiques que vous abordez. Il y a la question de ce que nous avons en commun, ce qui nous relie, ce qui permet de faire du commun dans une société qu'on décrit comme fracturée. Et vous montrez que les Français, finalement, estiment avoir très peu de choses en commun les uns avec les autres.
Oui, c'est une autre surprise quand
ça, c'est très
on compare, absolument. Alors, si vous voulez, à chaque fois, ce que je fais, on ne peut pas juger d'une situation comme ça, dans l'abstrait. Pour juger d'une situation, il faut comparer à ce qui se passe un peu avant, donc comment était la France il y a 5, 10, 15 ans, et puis à ce qui se passe dans des pays comparables. C'est seulement là qu'on peut se faire une opinion. Et ce que vous dites m'a là aussi beaucoup frappé dans les enquêtes qui sont, on appelle Eurobaromètre, sur l'attitude des personnes et la confiance qu'elles ont dans leurs concitoyens, la France est la plus mal placée. Là aussi, c'est plutôt une interrogation pour moi, et c'est quelque chose qui est pas très sympathique.
Au fond de la classe, avec les Hongrois, les Belges et les Roumains, mais on est loin derrière tous les autres membres de l'Union européenne.
Oui, on est loin derrière, on est comme de la même manière qu'on est loin derrière sur des, par exemple, le fait que la mondialisation existe, il faut s'y adapter. On est parmi ceux qui ont le plus peur de cette mondialisation, beaucoup plus que les Portugais, bien sûr, que les Danois ou les Suédois.
On retourne au standard. Bonjour Nikita.
Ouais, salut.
Bienvenue sur France Inter, votre question à Hervé Lebras.
Merci beaucoup. Bonjour la France Inter. Monsieur Lebras, je vous connaissais pas. Je voulais juste profiter de votre présence de géographe, démographe sur ce plateau pour vous poser la question d'une France qui voit un peu plus loin que ses fins de mois, bien que je soutienne les Gilets jaunes, sur l'accueil des réfugiés. Et quid, comment sont les chiffres? Et qu'est-ce qu'on nous raconte actuellement sur ce sujet-là, sur le trop-plein, le pas assez, le comment faire, etc. Et je trouve que personnellement que la manière dont on traite ce problème en Europe et en France produit un vrai merdier sur la question, quoi.
Hervé Lebras, oui, est-ce qu'il y a une réalité dans le mot de submersion, par exemple, dans cette théorie, dit-on, du grand remplacement? Il y a ça derrière la question aussi.
Oui, il y a ça derrière la question. Je dirais d'abord pour commencer que, au fond, un côté intéressant, et je trouve positif de l'affaire des Gilets jaunes, c'est que la question de l'immigration qui envahissait non seulement les médias mais les esprits n'a pas été du tout au centre. Il y a eu quelques aspects, mais elle n'a pas été considérée comme importante par les Gilets jaunes. Et je trouve qu'ils ont raison parce que, alors on va encore m'accuser de sortir des chiffres, mais c'est quand même important pour la survie. Ben, le dernier chiffre, c'est que quand on regarde le bilan migratoire de la France, c'est-à-dire la différence entre le nombre de personnes qui arrivent et le nombre de personnes qui partent, depuis 10 ans, c'est 60 000 personnes par an. C'est presque rien, c'est 1 pour 1000. Et il est complètement déraisonnable de parler de submersion, mais c'est 1 pour 1000 parce qu'il y a des étrangers qui arrivent, mais il y a des Français qui partent.
Il y a des candidats au départ.
Eh bien, c'est les expatriés.
Et vous en parlez aussi dans votre livre, c'est la dernière question. Vous avez un conseil à donner à Emmanuel Macron avant sa conférence de presse?
Vous savez, les...
Allez,
non, je vais vous dire pourquoi.
Vous étiez à deux doigts de le faire.
Tous les politiques que je rencontre me demandent presque toujours que doit-on faire. Mais je leur dis, c'est pas du tout mon métier, c'est le vôtre. Moi, je peux tenter de vous expliquer quelle est la situation et avec les moyens que j'ai. Mais c'est à vous de prendre des décisions et de dire ce qu'il faut faire. Donc, je ne lui donnerai pas de conseils.
Merci Hervé Lebras. Se sentir mal dans une France qui va bien. La société paradoxale est publiée aux éditions de l'Aube. Bonne journée. Merci d'avoir été l'invité de France Inter.